à Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition du 14 décembre 2018. République démocratique du Congo, l'ONU dénonce les violences contre des candidats de l'opposition et appelle au respect de la liberté d'expression. Des anti-balakas se retirent du processus de désarmement en Centrafrique. Au Cameroun, libération de détenus de la crise anglophone au lendemain de l'annonce de la grâce présidentielle. Report de l'audience sur la libération provisoire de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Lancement ce vendredi de VOA Afrique en FM à Lomé, capitale togolaise, sur la fréquence 102.3. Et le suspect dans l'attentat de Strasbourg a été abattu. La Minute Éco, les sports, ce sera juste après le journal. La commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dénonce les violences contre des candidats de l'opposition aux élections en République démocratique du Congo. Michelle Bachelet appelle les autorités à faire respecter le droit à la liberté d'expression. Nani Talani nous en dit plus.
Michelle Bachelet affirme être très inquiète au sujet d'informations faisant état d'un usage excessif de la force, y compris de balles réelles par les forces de sécurité contre des réunions de l'opposition. La fonctionnaire de l'ONU affirme qu'à quelques jours des élections cruciales en RD Congo, il est essentiel que les autorités s'assurent que les droits à la liberté d'expression et à des réunions pacifiques soient totalement protégés et qu'elles prennent toutes les mesures possibles pour prévenir des violences. Michelle Bachelet demande au gouvernement congolais d'envoyer le signal clair que toutes les menaces et les violences à l'égard d'opposants politiques ne seront pas tolérées. Elle réclame une enquête rapide et efficace et que les auteurs rendent des comptes. Jeudi, un jeune partisan de l'opposant Félix Tshisekedi a été tué à Mbujimayi dans le centre du pays. Cette semaine, au moins 4 partisans de Martin Fayulu ont été tués au Katanga. Un dépôt de la Commission électorale nationale indépendante a été incendié à Kinshasa et plus de 8000 machines à voter sont parties en fumée.
Libération effective de plus d'une centaine de détenus au Cameroun suite à la décision hier du président Paul Biya ordonnant l'arrêt des poursuites judiciaires contre 289 détenus de la crise anglophone. Le point avec Idriss Fall.
Les bénéficiaires de la clémence du chef de l'État sont immédiatement remis en liberté d'après Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense. Il a ajouté que la liste sera publiée au terme des audiences de différents tribunaux militaires ce vendredi. Un premier lot de 110 personnes est déjà sorti de prison. Hier, la présidence camerounaise a annoncé l'arrêt des poursuites contre 289 détenus de la crise anglophone. Le ministre précise que la mesure concerne uniquement les personnes avec des charges d'une gravité relative, mais n'inclut pas les assassins et autres commanditaires et planificateurs de la crise dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Par conséquent, Julius Sissoukou Ayouk Tabé, leader séparatiste accusé de terrorisme et de sécession, n'est pas concerné. Son procès s'est ouvert le 6 décembre devant le tribunal militaire de Yaoundé, puis a été renvoyé au 10 janvier. Il avait été arrêté au Nigeria et extradé en janvier avec 46 autres personnes. Depuis fin 2017, plus de 200 membres des forces de sécurité et au moins 500 civils ont perdu la vie dans ce conflit qui a forcé plus de 437 000 personnes à fuir leur maison.
En Centrafrique, des factions anti-balaka ont décidé de se retirer du processus de désarmement après l'arrestation en France d'un de leurs leaders, Patrice Edouard Ngaïsona. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Nous constatons que seuls les anti-balaka sont jugés et condamnés, indique un premier communiqué de la branche de M. Ngaïsona. Dans un communiqué séparé, l'autre branche anti-balaka, dirigée par Maxime Mokom, dénonce ce qu'elle qualifie de chasse aux sorcières. Les deux factions ont appelé leurs représentants à se retirer du processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Nous avons fait preuve de bonne volonté, nous avons entamé le dialogue, on ne comprend pas, a déclaré Dieudonné Ndomaté, coordonnateur des opérations des anti-balaka. Selon lui, je cite, Les gens dans les quartiers sont en colère à Bangui. Sébastien Wenezui, porte-parole de Ngaïsona, a néanmoins appelé à la retenue. Patrice Edouard Ngaïsona a été arrêté à la suite d'un mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour sa responsabilité présumée dans des crimes commis dans l'ouest de la Centrafrique entre septembre 2013 et décembre 2014. Il était l'ancien coordonnateur politique des Anti-Balaka, mais aussi président de la Fédération Centrafricaine de Football. Son arrestation intervient moins d'un mois après celle d'Alfred Yekatom, dit Rambo, un autre ancien chef Anti-Balaka. Le Conseil de sécurité a renouvelé hier le mandat des casques bleus de la MINUSCA jusqu'à la fin 2019.
Des milliers de personnes se sont réjouies ce vendredi à Abidjan, croyant à la libération provisoire de Laurent Gbagbo. La Cour pénale internationale n'a pas annoncé sa décision. L'audience a été reportée. Un des avocats du FPI, Rodrigue Dadje, a reconnu avoir annoncé à tort la libération provisoire de M. Gbagbo sur la base d'une information erronée. L'armée nigériane a annoncé avoir suspendu les activités de l'UNICEF dans le nord-est du pays jusqu'à nouvel ordre, accusant certains de ses membres d'espionnage en faveur des djihadistes. Nous disposons d'informations crédibles selon lesquelles certains d'entre eux se livrent à des pratiques pernicieuses susceptibles de nuire à la lutte contre le terrorisme car ils entraînent des espions qui soutiennent les insurgés, a déclaré le colonel Onyema Nwachukwu dans un communiqué. Au Zimbabwe, les conclusions de l'enquête sur les violences post-électorales du 1er août seront rendues publiques la semaine prochaine, a affirmé le président Emmerson Mnangagwa. 6 personnes avaient été tuées et plusieurs blessées dans des affrontements à Harare avant la proclamation de la victoire au premier tour de Mnangagwa sur l'opposant Nelson Chamisa. Les présidents somaliens Mohamed Abdoulaye Mohamed et érythréen Isaias Afwerki se sont engagés à lutter ensemble contre le terrorisme à l'issue de la première visite à Mogadiscio de M. Afwerki depuis son entrée en fonction en 1993. Les deux pays entretenaient des relations tendues en raison du soutien présumé d'Asmara au Shebab, mais ils ont établi des liens diplomatiques en juillet dans la foulée d'un accord de paix.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a encore accusé le président américain. Dans une interview télévisée, il affirme que M. Trump n'ignorait rien de l'illégalité de versements effectués à deux anciennes maîtresses supposées pour le prix de leur silence. Le président rejette ces accusations. Jacques Aristide nous en dit plus.
Interrogé sur ABC News, Michael Cohen affirme que les versements d'un montant de 280 000 dollars à Stormy Daniels et Karen McDougall ont été effectués car Donald Trump, dit-il, était très inquiet des effets que les accusations de ces deux femmes auraient pu avoir sur la présidentielle de 2016. D'après lui, M. Trump, alors candidat, savait que de telles transactions étaient répréhensibles. Il s'agit des premières déclarations publiques de Michael Cohen depuis sa condamnation hier à 3 années de prison par un tribunal de New York. Le président américain assure de son côté qu'il n'a jamais demandé à Michael Cohen de violer la loi et fait porter à l'avocat la responsabilité d'éventuelles erreurs. L'ancien avocat réplique « Rien de ce qui était fait au sein de la Trump Organization ne pouvait avoir lieu sans l'assentiment de M. Trump », dit-il. Pour le président, Michael Cohen était un avocat et censé connaître la loi, et d'ajouter que Cohen a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation sans aucun lien avec moi. En plus de sa peine de prison, qu'il commencera à purger en mars prochain, Michael Cohen a été condamné à 100 000 dollars d'amende.
Une victime blessée dans l'attentat de Strasbourg en France, qui était dans un état critique, est décédée ce vendredi, portant à 4 le nombre de personnes tuées. Il s'agit d'un jeune journaliste italien de 28 ans. 2 personnes sont mortes mardi soir lors de l'attaque perpétrée dans la zone du marché de Noël de Strasbourg. L'auteur, Chérif Chekat, a été tué par la police après 2 jours de cavale. Une 3e personne est décédée hier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
En Angola, la compagnie nationale pétrolière Sonangol et ExxonMobil viennent de signer un accord sur l'exploration pétrolière dans le bassin de la Namibe. Cette convention ouvre la voie aux négociations de contrats pour de nouvelles concessions. La Sonangol veut renforcer la recherche et la découverte de nouvelles réserves. Le pétrole représente 95% des exportations angolaises et environ 70% de ses recettes. En Afrique du Sud, l'afflux d'investissements étrangers directs a diminué de près de 3 milliards de rands au troisième trimestre de l'année, a indiqué sa banque centrale. Les entreprises étrangères envoient moins d'argent aux filiales locales. Par contre, les investissements de portefeuille ont atteint 17,9 milliards de rands. Contre 16,6 milliards de rands de juillet à septembre. Enfin, cette semaine, le cuivre, l'aluminium et le plomb se sont inscrits en légère baisse, tout comme le zinc et le nickel dans une plus forte mesure. L'étain, de son côté, a progressé. À Londres, la tonne de cuivre pour livraison dans 3 mois s'échangeait à 6 100 $ contre 6 166,50 $ la semaine dernière. L'aluminium valait 1923,50 $ la tonne contre 1959 $. Le plomb valait 1942,50 $ la tonne contre 1981 $ la semaine dernière.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
L'Afrique du Sud est candidate à l'organisation de la CAN 2019.
Nous avons soumis notre candidature, a affirmé un porte-parole de la Fédération sud-africaine de football. La nation arc-en-ciel, seul pays africain à avoir accueilli une Coupe du Monde en 2010, a déjà organisé la CAN à 2 reprises en 1996 et en 2013, année où elle a remplacé la Libye, organisatrice initiale, mais qui s'était retirée en raison de l'instabilité politique et sécuritaire. L'Afrique du Sud rejoint ainsi l'Égypte, autre candidate officielle. Le Maroc, lui, avait créé la surprise en annonçant qu'il ne serait pas candidat. De son côté, le Ghana, qui vient d'organiser la CAN féminine en novembre, s'est dit, par la voix de son ministre des Sports, prêt à accueillir la compétition si aucun autre pays africain n'est finalement retenu. Dans tous les cas, le pays hôte de la CAN, qui est prévu du 15 juin au 13 juillet, sera connu le 9 janvier.
16e de finale aller en Ligue africaine des champions ce week-end.
Oui, après avoir sorti le Koroki Togo en tour préliminaire, le Jaraf de Dakar se déplace demain au Maroc pour affronter le Wydad Casablanca. Le club algérien de la JS Saoura aura une mission beaucoup plus compliquée face au Marocain de Lyre Tanger, champion du Maroc en titre. Les vainqueurs de cette double confrontation accéderont à la phase de groupe, tandis que les perdants seront reversés en barrage de la Coupe CAF.
Justement, les 16e de la Coupe CAF se jouent aussi ce week-end.
Deux clubs marocains entrent en compétition demain, la RS Berkane et le Raja Casablanca tenant du titre. Les Berkanis affronteront l'équipe libyenne d'Al Ittihad à domicile, tandis que les Verts se produiront dimanche au complexe Mohamed V à Casablanca contre les Gabonais d'AOCMS. Exemptés de tours préliminaires, l'étoile sportive du Sahel, le CS Sfaxien et le Zamalek feront leur apparition. Les 16 qualifiés rejoindront les barrages où ils affronteront les réversés de la Ligue des Champions pour une place en phase de groupe.
La CAF a dévoilé la liste des 10 finalistes pour le titre de footballeur africain de l'année.
Oui, on retrouve sans surprise les deux grands favoris, Mohamed Salah et Sadio Mané, respectivement 6e et 22e du dernier Ballon d'Or. En revanche, plusieurs absents de marque sont à signaler, avec Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech, Thomas Partey et Naby Keita. À la place figure par exemple l'attaquant nigérien d'Arsenal Alex Iwobi, l'Ougandais Denis Onyango de Mamelodi Sundowns et l'Égyptien Walid Soliman d'Alali. 3 finalistes en lice pour le titre d'entraîneur de l'année, Hervé Renard, sélectionneur du Maroc, Aliou Cissé du Sénégal et Mouine Chabani, l'entraîneur de l'Espérance Tunis, vainqueur de la Ligue des Champions. Les vainqueurs seront désignés le 8 janvier à Dakar lors de la cérémonie des CAF et Or.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge, pour vous présenter les dossiers du jour. Le gouvernement congolais pense que l'incendie d'hier d'un entrepôt de la commission électorale à Kinshasa est d'origine criminelle. Sans attendre la conclusion des enquêtes, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, fait allusion, sans les citer, aux déclarations contre la machine à voter de certains cadres et du candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, durant la campagne. Ce que rejette le camp de l'opposant, alors que l'Église catholique appelle à des enquêtes sérieuses pour connaître les auteurs de cet incendie. Voici un reportage de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Si Corneille Nangaa s'entête à imposer ses 100 000 machines à tricher, il devrait déployer derrière elle un policier pour qu'elles ne soient pas cassées, détruites et brûlées. Les Congolais vont se charger de faire respecter la loi électorale. C'est ce tweet d'Olivier Kamitatou, le directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, daté du 13 septembre 2018, qui relance la polémique entre le gouvernement et le camp du candidat Martin Fayoulou au lendemain de l'incendie à Kinshasa de l'un des entrepôts de la CENI. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, accuse Fayoulou d'avoir été mis sur orbite pour empêcher les élections de se tenir, pas pour les gagner. Il ne fait pas campagne. Il prépare la contestation, il prépare une crise post-électorale et nous l'attendons au tournant, a-t-il souligné.
Dès le 13 septembre dernier déjà, un tweet assassin de l'un de ses pyromanes par procuration annonçait les couleurs. Si on ajoute à cela toutes les révélations qui ont été faites au sujet des véritables enjeux des accords signés par certains protagonistes de ces élections en dehors de notre pays, notamment à Genève, on peut aisément expliquer le cirque, les intimidations et les actes de provocation qui sont en train de se dérouler.
La coalition Lamouka, qui, par l'entremise de son champion Fayoulou, a condamné cet incendie, dit n'être impliquée ni de près ni de loin dans ce drame. Elle exige d'ailleurs des enquêtes sérieuses et indépendantes pour en établir les responsables. À la conférence épiscopale nationale du Congo, l'on se réserve également d'accuser qui que ce soit à ce stade avant que la justice n'ait fait son travail. L'abbé Jean-Marie Bomengola est le porte-parole adjoint de la CENCO.
Il y a un communiqué de la CENI qui nous rassure que cet incident ne va pas impacter le processus normal des élections. Et puis pour le reste, je crois que la justice va faire son travail.
Réaction mitigée dans les rues de Kinshasa à 9 jours des élections.
Avec beaucoup de regrets, on savait tous qu'on ira certainement le 23 décembre aux élections avec la machine à voter. Imaginez perdre 8000 machines. Pour 19 communes de la ville de Kinshasa, c'est désolant. Mais comme le président de la CENI a dit hier, je crois, lors de son point de presse, qu'il y a des machines en réserve qui pourraient être remplacées à la place de ceux qui ont été brûlés. Ok, comme ils ont prévu l'imprévu, alors attendons le résultat final le 23 décembre. Olivier Kamitatu, qui est tweeté, il est aujourd'hui responsable, alors que peut-être il a juste écrit pour s'amuser. Aujourd'hui, on lui accuse de tout le monde. C'est possible, mais c'est aussi non, parce que établir les responsabilités, il faut des enquêtes. Mais dire que c'est l'opposition, moi, je trouve que c'est pas correct.
On reste inquiet par rapport à la suite du processus électoral. Il y a quand même des questions à se poser.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
À votre avis, ce vendredi, à partir de 18h05, temps universel sur VOA Afrique, le Nigeria vient d'attribuer ses Integrity Idols, reconnaissant un juge de la Cour fédérale d'Abuja comme le fonctionnaire le plus honnête du pays. Le Mali a procédé de même récemment en récompensant le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Malik Koulibaly. Que pensez-vous de telles initiatives? Connaissez-vous des agents de l'État dont l'intégrité mérite d'être célébrée? Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez en direct au 001 202 205 2633. À votre avis ce soir sur VOA Afrique.
Au Cameroun, liberté effective depuis cet après-midi pour les détenus de la crise anglophone. 110 d'entre eux, dont les poursuites judiciaires étaient pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé, ont été libérés à l'issue d'une audience spéciale qui s'est tenue ce vendredi. Une libération qui fait suite à la décision prise hier par le président Paul Biya ordonnant l'arrêt des poursuites judiciaires contre 289 détenus. Voici le reportage de notre correspondant Emmanuel Jultap.
Je peux dire que ça, c'est le commencement de la paix. Parce que tout le monde qui suit ça, on sait qu'il y a quelque chose de bon qui vient. C'est une surprise. On n'attendait pas ça à ce moment. On attendait le 31 que le chef d'État parle suivant. C'est à l'heure là qu'on attend les nouvelles. C'est le joie.
Stella Yongaleng ne cache pas sa joie après la libération de son frère cadet. Il avait été interpellé il y a 2 ans en Banga, une localité de la région du littoral, pour distribution de tracts appelant à la sécession. La famille Mfé a assisté ce jour à l'audience spéciale de libération de leur fils, Yongambela Valérie Mfé, est la cadette de l'ex-détenu.
Nous sommes très contents, c'est pour cela que nous sommes là avec les sœurs pour être témoins de sa libération. Et on va rentrer à la maison après 2 ans de séparation.
Pour rendre la liberté aux 110 détenus de la crise anglophone, dont les affaires étaient pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé, l'audience spéciale de ce vendredi a duré 20 minutes. Christopher est un agriculteur, il fait partie des détenus libérés ce jour. Il avait été interpellé à Bamenda.
Je me sens très bien d'être en liberté et de passer ces derniers jours de l'année avec ma famille après 7 mois que j'ai perdu pour rien. Ça m'a fait beaucoup mal.
Au tribunal ce matin, il y avait aussi quelques défenseurs des droits de l'homme au Cameroun. Parmi eux, Maximilienne Gombe, la directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Elle salue l'acte du président Paul Biya, mais demande plus.
Il faut tous les libérer, mais il faut aussi discuter avec ceux qui ont une opinion différente, une opinion contraire, comme la Ligue Sabine. Il a ses opinions. Dans une démocratie, c'est la liberté d'opinion qui doit prévaloir. On peut mettre un comité distinct pour aller discuter, pour savoir quel est le problème exactement.
Le journaliste Michel Mbiemtom est parmi les bénéficiaires de la décision d'arrêt des poursuites judiciaires. Il était accusé notamment d'apologie de terrorisme. Son avocat est Maître Ntsoma Julien.
Nous saluons d'ailleurs cette décision qui va sans doute contribuer à l'apaisement de ce qu'on peut appeler crise anglophone aujourd'hui. Mais nous sommes d'autant plus fiers que la détention de Michel porta atteinte à la liberté de la presse. Donc on ne peut que se réjouir de sa libération aujourd'hui.
Parmi les 110 personnes libérées ce jour à Yaoundé, il y avait une femme et des jeunes qui vont devoir retourner chez eux. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le gouvernement tchadien a décidé de rétablir dès le 1er janvier les indemnités et primes des personnels des forces de défense et de sécurité. Ces compensations avaient été coupées dans le cadre des 16 mesures d'austérité pour faire face à la crise économique et financière. Il est à rappeler que ces mesures frappent également les fonctionnaires civils de l'État. Notre correspondante Jamena a recueilli des réactions sur cette décision. Voici le reportage de André Kodmajingar.
Aussitôt après la publication du décret signé du président Déby Abrogeant-Séli de 2017 qui gèle les soldes militaires, la nouvelle a été ensuite confirmée par message de l'état-major des armées envoyé dans toutes les casernes du pays. Un vrai cadeau de Noël pour le personnel des armées. Mais les autres citoyens s'interrogent sur l'opportunité choisie pour revaloriser uniquement les soldes des militaires. Max Kamkoui est le président national de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, un parti politique de l'opposition.
On emprunte un peu plus de 40 millions d'euros auprès de l'AFD pour ne serait-ce que payer le salaire du mois en cours. Et entre-temps, on prend un décret pour rétablir les soldes des militaires. Il y a eu un moratoire avec les enseignants qui suspendent la grève. Et aujourd'hui, il prend un autre front, 2 bataillons à gérer. Est-ce que le gouvernement serait en mesure de faire face simultanément à ces 2 bataillons-là? C'est quand même douteux. Vous pouvez disposer de toute une artillerie militaire. Mais si vous avez une troupe qui n'a pas de morale, c'est ça ce qu'on appelle l'accessoire en matière de défense. Comme il a déjà l'élément fondamental, il faut maintenant rétablir l'accessoire pour parer à toute éventualité.
Le général de brigade Yaya Batit confirme que ce geste va galvaniser les troupes à mieux combattre les rebelles dans le nord du pays.
Nous avons toujours clairement dit à Déby que couper les salaires des forces armées tchadiennes, c'est un coup d'état à Déby. Et le président Déby a bien compris. Et par là, l'armée sera motivée et elle va frapper dur ces renégats. À la montagne de Tibesti, l'armée c'est la motivation. C'est les motivés, elle frappe
bien. C'est la fin, elle ne fait rien.
Pour les responsables syndicaux Barka Michel et Ibrahim Ben Saïd, respectivement président de l'Union des syndicats du Tchad et secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, si le gouvernement veut préserver la paix sociale, il doit lever ses mesures d'austérité pour tous les agents de l'État.
On souhaite bien que tous les travailleurs du Tchad soient bien payés. Tant mieux, ça a commencé avec les militaires. Il faut que très rapidement, les 35% des agents expirés soient absorbés pour que la paix sociale puisse régner. Et pour ça, nous allons nous battre.
Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 personnes qui ont des faux diplômes. Ça fait un gain de plus de 1 milliard. Nous avons 6 grandes institutions qui sont parties. Assez d'argent. C'est bien pour l'armée. Nous sommes un pays en guerre. Ce n'est un secret pour personne. Moi, je pense que les choses doivent être habilitées pour tout le monde.
Avec la levée du gel des salaires des militaires, un général retrouve sa solde initiale qui est de 800 000 francs CFA. Un officier, 65 000 francs CFA. Et un soldat, 50 000 francs CFA. André Kodmadingar Ndiamena pour VO Afrique.
VO Afrique, Ndiamena, c'est 93.1 FM au Tchad. Et justement, chères auditrices, chers auditeurs, sachez que depuis ce vendredi 14 décembre 2018, vous pouvez écouter VOA Afrique en FM à Lomé, au Togo, sur la fréquence 102.3. La cérémonie de lancement des programmes de la Voix de l'Amérique s'est déroulée en présence de notre correspondante dans la capitale, Kayi Lawson.
L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo, David Guillemot, vient d'appuyer sur le bouton qui ouvre désormais la réception des programmes de VOA Afrique en FM à Lomé et dans la région maritime. 102.3, c'est la fréquence sur laquelle les auditeurs togolais de la Voix de l'Amérique pourront désormais suivre les émissions de la radio américaine. VOA Afrique en FM au Togo est le fruit d'une convention avec la Radio Nationale Togolaise, Radio Lomé, et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Peter Lunanitelu, président de la HAC, a saisi l'occasion pour rappeler les obligations de la Voix de l'Amérique.
Ces fréquences doivent être exploitées de façon professionnelle. La véracité des faits, le respect de l'équilibre de l'information. Sur ces points, l'article 2 est clair. Si la VOA ne respecte pas ses engagements, la HAC sera obligée de retirer la fréquence à la VOA. Et connaissant le parcours de la VOA, nous ne doutons pas que la VOA respecte ses engagements.
Une assurance que réitère l'ambassadeur des États-Unis au Togo, David Guillemot.
La Voix de l'Amérique, c'est l'une des sources les plus fiables du monde. Et donc ça, c'est la raison la plus importante pour l'arrivée de la VOA au Togo, d'avoir une autre source des informations internationales, une autre source crédible pour les auditeurs togolais.
Les jeunes Togolais ont désormais une opportunité de plus pour pouvoir améliorer leur anglais grâce au programme de la station américaine, nous confie Abdou Latifou Wali, président de l'American Corner de l'Université de Lomé.
Actuellement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont là en train d'apprendre la langue anglaise. Donc déjà, c'est un atout. Et ce qu'on attend de la VOA, c'est d'avoir de bonnes émissions en anglais pour que ça nous aide.
Cette cérémonie a plongé certains Togolais dans des souvenirs. C'est le cas du directeur de cabinet au ministère de la Communication, Franck Micité.
La Voix de l'Amérique est une radio qui a bercé notre enfance. Pour nous qui sommes nés au début des années 60. Lorsque nos parents qui captaient cette radio en ondes courtes voulaient bien nous permettre d'écouter les émissions sur cette radio. Nous avons appris beaucoup de choses à travers la Voix de l'Amérique. Nous avons eu nos premiers contacts avec le monde extérieur à travers la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique émet donc sur la fréquence 102.3 à Lomé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des programmes aussi bien en anglais qu'en français. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot. À la console, Nelson Lopez. À la présentation, Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Bonne soirée à toutes et à tous en compagnie de Henri Francisque pour un rappel de l'actualité dans le monde.
Afrique, les infos.